Fragments d'art sur Radio Gameuse avec nous.
Aujourd'hui, je me suis faufilée dans les coulisses d'un lieu en pleine transformation. À la Lune en parachute, à Épinal, l'exposition Sous la peau du monde est en train de naître, portée par les étudiantes de 3e année de l'ESAL à Épinal. Entre les pots de peinture, les échelles, les visseuses et les œuvres encore en mouvement, j'ai choisi de capter sur le vif quelques fragments sonores au cœur du montage. Dans cette effervescence, un peu fragile, presque suspendue, j'ai rencontré Paulina et Chloé, étudiantes et exposantes qui se sont glissées, le temps d'un instant, dans la peau de médiatrice. Elles m'ont raconté l'exposition de l'intérieur, entre gestes techniques, intentions artistiques et regards sensibles. Un moment à part, au cœur d'un travail collectif, en train de prendre forme.
Je suis en présence de Pauline et de Chloé, étudiantes en troisième année à l'ESAL d'Épinal, qui sont là avec moi au micro pour présenter l'exposition « Sous la peau du monde » organisée dans les locaux de la Lune en parachute du 23 janvier au 20 février. Eh bien, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, cette exposition « Sous la peau du monde » est... comme je le disais, proposé par les étudiants de l'ESAL Épinal. C'est quelque chose, je pense, pour les étudiants d'exposer. Est-ce que c'est une première exposition pour tout le monde ?
Alors, première, pas pour tout le monde. Nous, on est en troisième année, donc, c'est un peu dire au revoir à cette ville et à cette école, hein, cette exposition aussi, même si elle arrive au milieu d'année. Mais c'est pour certains, donc comme on est en troisième année, en deuxième année notamment, on a eu déjà d'autres modules, d'autres cours qui, en partenaire avec la ville d'Épinal, pour venir aménager les espaces de culture. Voilà.
Mais pour certains, oui, c'est un projet, c'est un premier projet d'exposition. Et en fait, ça nous aide aussi à avoir un peu une vision de ce qu'est un artiste, en fait, qui commence, en fait, à exposer ses projets. Donc moi, je trouve ça bien que l'école, justement, nous propose, en partenariat avec la Lune en parachute, de faire cette première expérience pour nous, enfin, pour certains, pour d'autres qui l'ont déjà fait. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est ma première expérience d'exposition et c'est un peu excitant, frustrant, un peu stressant parce qu'on ne sait pas trop des fois, en fonction on a une limite de temps, donc c'est un peu frustrant des fois pour tout organiser. Mais une fois que tout est mis en place, il y a un soulagement et de se dire qu'on est pressé de voir un peu l'interaction du public, de voir un peu comment le public va réagir face à notre œuvre. Est-ce que le message qu'on veut transmettre sera bien transmis, voir comment les gens vont réagir en fait. Donc il y a un peu aussi une petite fierté aussi de se dire que on peut commencer à exposer comme de vrais artistes.
C'est vrai qu'on se retrouve à faire tout, dans le sens où on se retrouve à faire des œuvres. C'est pour ça qu'on fait ces études et c'est pour ça et ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on se retrouve à faire des challenges qu'on n'avait pas à faire avant, mais des trucs du genre gérer la médiation, parce que donc là on est sur une exposition qui dure un mois et qui va avoir des ateliers. On organise des ateliers en rapport donc avec l'exposition. C'est pour les enfants. On a des ateliers pour enfants, on a des ateliers pour tout public, pour famille. C'est
des questions aussi. Là, ce qu'on fait, tout simplement, de parler avec vous, c'est pas un exercice spécialement facile.
C'est venir présenter notre travail, mais aussi des autres. C'est la médiation, c'est un travail. Et donc, c'est vrai que là, pour cette exposition, on s'est retrouvé à avoir plusieurs casquettes, quoi. La communication, tous les flyers, toutes les flyers, le titre, les visuels, tout, ça a été fait par des gens de la classe. Chacun, moi, le graphisme, c'est pas spécialement mon truc, donc c'est pas moi qui me suis chargée de ça. Je parle mieux que j'écris, donc j'ai été chargée à la médiation. Donc, on s'est tous, la classe s'est divisée.
On a mis le pied dans le bain, en fait. Ouais. Ça nous permet de mettre une sorte de pied dans le monde, vraiment, parce que l'école, ça reste quand même un côté un peu suivi, encadré, protégé un peu par les profs. Donc on a un peu une vision de l'art un peu pas fermée, mais on sait pas trop, on n'est pas vraiment au contact de la vraie réalité en fait de
ce qui... que notre travail, si on veut pouvoir en vivre, il faut qu'il puisse exister et il faut qu'il puisse être
promu, il faut qu'il puisse être vulgarisé.
Ça demande aussi l'organisation de tout. Par exemple, rien que pour juste cette expo-là, il a fallu tout organiser, bah, comme elle disait, au niveau communication, faire le dossier de presse, faire les flyers, prévoir la scénographie aussi. Il a fallu demander à des gens de la classe de pouvoir savoir où positionner les œuvres pour que ça corresponde, qu'il y ait une certaine synergie un peu... on va dire naturel, parce qu'il faut savoir que nous, tous nos travaux sont très hétéroclites, en fait ils sont très différents les uns des autres, on utilise des médiums très différents et ils ont tous un thème, même si on a tous un point commun centré sur un peu l'introspection et aussi le monde extérieur par rapport au rapport au monde extérieur, on a quand même des thèmes très différents, on aborde des thèmes très différents et il faut pouvoir les mettre de façon à ce que ça coordonne bien et que lors de la visite de l'exposition que ce soit fluide en fait, et tout ça c'est une organisation, on se rend pas compte en fait avant même de faire de créer l'exposition, on ne se rend pas compte de tout le travail que ça demande en amont, que ce soit le dossier de presse, les flyers, l'organisation aussi, nous, de réaliser même des ateliers pendant le temps d'exposition, voilà, et de faire nos propres œuvres aussi, qui demandent du temps aussi de fabrication, de temps de maturation au niveau des idées, et de se dire, est-ce que par rapport on a un temps imparti, est-ce qu'on va réussir à respecter ce temps imparti. Donc c'est tout un... Voilà, c'est une expérience, moi je trouve, très enrichissante, qui nous ouvrait les yeux surtout aussi sur le monde, entre guillemets, réel de l'art, quoi.
C'est très enrichissant sur beaucoup de niveaux, et notamment d'autres auxquels on ne s'y attendait pas, voilà, qu'on apprend encore aujourd'hui. Tous les jours, on est là, quelqu'un se charge du texte qu'on va mettre à côté. Personne s'est occupé de l'image vectorielle qu'il faut qu'on imprime après.
Ça demande une charge mentale énorme, quand même.
C'est très particulier, parce qu'aucun d'entre nous n'est professionnel. Et
on débute dans
en tout cas, dans ça, dans la communication, dans le machin, et donc... C'est un travail, il y a un travail évidemment autour de notre travail personnel, de nos œuvres, qui nous est très singulier et que c'est le but au final. Le but c'est de montrer nous ce qu'on fait, mais ça demande
un investissement assez réel quand même. Hein. On a un grand investissement et du temps. Et pas
nécessairement là où on pense.
Oui, voilà, exactement.
Donc, en effet, ce qui vous unit, c'est d'être étudiant à l'ESAL d'Épinal, mais vous avez tous chacun votre univers, votre démarche, et tout a été, comment dire, rassemblé sous la bannière du...
Sous la peau du monde,
en effet. À quoi est-ce que ça fait écho ? J'avais entendu parler d'intériorité, mais Chloé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Sous la peau du monde, donc, c'est un titre qui a été choisi à... Après que nous on ait déjà commencé à réfléchir nos travaux, c'était comment on peut réussir à réunir toutes ces idées sous un spectre qui sera forcément large parce qu'on est trop différents. Et sous la peau du monde, c'est venu parce que on s'est rendu compte que tout le monde, en fait, on se posait des questions. En fait, nos travaux relèvent des questions. Qui s'applique à nous de manière très intime, mais aussi de parfois universelle. On a le travail d'Ilona qui vient parler d'adolescence.
La souffrance du corps par rapport à l'adolescence.
C'est très personnel à elle. Elle parle d'une expérience forcément que pas tout le monde peut comprendre, mais d'un côté, on a tous été adolescents. Donc, sous la peau du monde, c'est ce rapport entre l'intime
et l'extérieur.
L'intime très profond. Et finalement la curiosité d'aller regarder dans l'intimité de la terre, dans l'intimité des choses qui nous entourent et pas que de la nôtre.
Il y a aussi une sorte de conscient collectif dans le sens où on est un peu tous liés d'une certaine manière par des expériences, même si elles sont différentes, on a tous des douleurs un peu similaires, c'est une introspection, mais en même temps un rapport aussi par rapport à tout le monde de façon collective. Donc c'est individuel et collectif, c'est intérieur et extérieur. En fait, c'est vraiment tout sous la peau du monde, ça signifie un peu tout ça.
Et dans les grandes lignes, Pauline et Chloé, qu'est-ce que c'est votre travail ? Alors Pauline, je crois avoir vu... que tu as une tortue en pâte de carton avec du plastique dessus. Dis-nous-en un petit peu plus avant qu'on se revoie pour un épisode ultérieur.
Alors, moi, j'ai Je me suis intéressée aux tortues marines récemment. J'étais pas très consciente de l'impact que l'homme avait sur, par rapport à la pollution plastique sur ces espèces. Et en fait, quand je m'y suis intéressée plus directement, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que l'impact qu'on a est vraiment énorme en fait sur même sur, le, sur la pollution par rapport aux océans. Et en fait, j'ai réalisé une installation de, d'une tortue en taille quasi réelle. Voilà, donc j'ai réalisé en fait une tortue en taille quasi réelle, tortue marine en pâte de carton et en carton qui sera articulée au niveau des nageoires. Et en fait, sur la carapace, j'ai fait une collection de déchets que j'ai peints en blanc sur lequel il y aura une projection en fait de lumière sous forme d'eau pour un peu immerger le public en fait dans un, comme si on était avec la tortue, en train avec la tortue. Et en fait, les plastiques sont un peu comme une seconde peau sur sa carapace pour montrer un peu le fardeau qu'elle doit porter, en fait le poids de nos actions, de l'homme par rapport à cette pollution. Et de savoir que pourquoi j'ai choisi ce médium, le carton, parce que le carton c'est à la fois fragile et résistant. C'est-à-dire que le carton tout seul, quand on le met dans l'eau, ça ramollit, ça se désagrège, ça se détruit. Pourtant, quand on fabrique la pâte de carton, une fois qu'elle sèche et qu'elle durcit, elle devient aussi résistante et dure que, comme du bois. Et en fait, cette dualité, en fait, je l'ai un peu reliée à la tortue en elle-même, puisque la tortue, c'est un animal un peu ancestral. Hein. Elle était là bien avant l'homme, et j'espère qu'elle sera là bien après nous. Mais voilà, elle a duré dans, le, dans, dans la vie, elle a su vivre, elle a su s'adapter, malgré les prédateurs, malgré la pollution, malgré l'homme. Mais certaines espèces restent encore, sont encore en voie d'extinction, donc il faut quand même préserver ces espèces, parce qu'il faut savoir que les tortues marines ont un rôle très très important dans l'équilibre écologique des océans. Et justement, j'ai voulu un peu représenter cette prise de conscience, puisque je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'utilisation d'une tonne de plastique, parce que ce que j'ai collecté en plastique, je l'ai collecté en un jour seulement, en même pas pour un foyer. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de plastique qu'on utilise par jour et par personne. Et encore nous en France, on fait un peu plus attention, mais dans certains pays, malheureusement, il n'y a pas de système de recyclage, il n'y a pas de système de... on ne fait pas attention. Donc c'est vraiment pour montrer l'importance, en fait, que le plastique devient vraiment une pollution très préoccupante, et c'est pour faire une prise de conscience, en fait, collective. Voilà.
Et toi, Chloé, ton travail consiste en quoi dans les grandes lignes ?
Moi, c'est... je voulais travailler le tissu. Travailler... Donc... j'avais deux questions. J'avais deux envies. Travailler le tissu et travailler le vivant. La question de comment on... Qu'est-ce qui fait que les choses, que nous, on est vivants. Et donc, moi, mon travail, mon œuvre s'appelle rhizogénèse. La rhizogénèse, c'est la genèse donc, des racines au sein d'une plante. C'est... et donc, à travers le tissu, à travers la broderie, c'est aborder le changement, l'organique, à travers les choses qui changent et comment ce qui change est nécessairement vivant. Quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Pauline et toi, Chloé, vous avez évoqué un petit peu plus tôt que c'est un travail collectif, hein, que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour la construction de cette exposition Sous la peau du monde. Ça a dû être, comme je l'ai entendu, un défi et ça a dû vous donner, je pense, un regard nouveau sur le monde de l'art, à savoir c'est au-delà de la création, là il y a encore beaucoup plus, donc médiation visuelle, installation, etc.
Oui, bah, je ne peux pas parler pour tout le monde. Je ne sais pas à quel point ça a été un fardeau pour certains et une tâche beaucoup plus facile pour d'autres. Je pense c'est quelque chose de différent, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est vrai qu'on a appris des choses. Aujourd'hui, ça nous donne des outils. Et c'est aussi... je pense que... moi, personnellement, je savais déjà... enfin, je me suis inscrite en médiation parce que je savais bien que, par exemple, le graphisme, j'allais pas faire une affiche, quoi. c'est pas mon approche au travail. Et donc, c'est... je sais pas si ça a été vraiment une opportunité de découvrir de nouvelles choses, mais... enfin, de se découvrir, nous, de nouvelles appétences. Et j'adore préparer un dossier de presse, c'est super. Je pense pas que ce soit ce qui en ressort, mais... en tout cas, ce qui en ressort, c'est beaucoup de fierté d'avoir réussi, je pense. Plus que ça va découvrir une nouvelle passion, des tâches un peu ingrates. parce que ce qui nous plaît quand même avant tout, c'est le travail qu'on montre, en tout cas nos œuvres d'art. Et que c'est avec fierté de se dire waouh, on a fait une exposition, waouh, on maîtrise des codes et des nécessités pour une exposition qu'on n'avait pas du tout avant. J'arrive pas à terminer ma phrase.
Les Halles d'Épinal tournent beaucoup autour de l'image et de la narration. Et pourtant, je vois autour de moi qu'il y a différents médiums, c'est même très varié, des histoires très différentes. Ça a dû aussi apporter quelque chose, que vous ayez chacun votre personnalité, votre propre regard sur le monde et sur l'art, pour proposer justement un ensemble varié, même si c'est sous le même thème.
C'est vrai qu'on est tous très différents de par nos parcours aussi, notamment. Je pense à Pierre, par exemple, qui lui fait une animation en pixel art qui va en interaction avec ce qui se passe autour. On est à la veille du vernissage. Je ne sais pas où il en est. Je ne sais pas ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté, ce qui a marché, ce qui a pas. Mais en fait, comme c'était une interaction avec ce qui se passe autour, notamment avec l'heure du jour, quand l'animation sera toujours allumée, donc quand il fait jour dehors, il fait jour dans l'animation, et quand il fait nuit, il fait nuit. C'est vraiment en fonction de c'est vraiment live, quoi. Et il me semble qu'à un moment donné, il avait cette volonté de faire interagir la météo. S'il fait beau dehors, il fait beau dans l'animation. S'il pleut, il pleut dans l'animation. Et du coup, pour ça, c'est un travail de codage fou. Là, on est sur l'ingénierie informatique. Ça, c'est de par ses affinités, son parcours, ses envies. Il y a vraiment que lui dans la classe qui aurait pu faire ça, quoi. Chacun apporte le parcours qu'il a avec lui, ses bagages qu'il a et qui sont tous très différents. Donc on a cette animation en pixel art qui nécessite du codage, on a de la peinture sur bois, des installations, ils sont en train d'installer l'arbre géant de Gillian qui est donc qui mélange du fusain, du bois, mais aussi de la réalité augmentée. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui demandent des problématiques différentes. Là, on est à côté du travail d'Aurore qui donc travaille la céramique. Sauf que la céramique, c'est tellement de travail que Aurore, là, ses œuvres qu'on voit, c'est des choses qu'elle travaille depuis des mois et qu'elle n'a pas eu le temps d'expérimenter. C'est la couleur qui sort, c'est la couleur qui sera. Je trouve que Aurore, c'est quelqu'un dont le travail et la personne est très minutieuse. Et en fait, malgré sa minutie, en fait, je trouve que là, durant l'exposition, elle a apporté quelque chose de très expérimental, dans le sens où elle ne connaît pas. La céramique demande un travail d'oxyde et de terre qui est à un niveau chimique où, en fait, qui fait que quand tu mets du verre sur ton œuvre, tu sais pas si à la cuisson, après la cuisson, ça sortira vert. Et donc, ça ressort. Elle joue avec ces surprises-là et elle en a pas peur. C'est des médiums qui apportent des questions différentes. Là, Aurore, son four, son dernier four, il finit ce soir ou demain matin. Donc, ça va être la course demain pour finir d'installer. Emeline qui a fait un grand mural qui prend tout le mur en bleu, elle a dû apprendre à faire un mural mais digne de muraliste, quoi, alors que Emeline on a tous commencé dans nos carnets et aujourd'hui là, elle finit sur un mur. C'est physique aussi, c'est du travail. Là, l'autre jour avec Pénélope, on a dû monter les simèzes, enfin des murs, parce que pour faire l'intersection là-bas, il a fallu rajouter un mur. Il a fallu monter le mur. Chaque installation, elle demande des compétences qu'on n'avait pas forcément avant, en fait, aussi. On apprend des choses dans le milieu de l'art qui n'est pas forcément artistique en soi, mais on apprend aussi pour nos travaux. L'apprentissage pour donner le meilleur de ce que notre travail a à offrir, je pense aussi. Beaucoup de médiums, on a. Et aussi, par exemple, Paco, lui, dans son travail, Paco, lui, il a fait un dessin, un grand dessin, de l'encre et de l'aquarelle. C'est vraiment stylo aquarelle, de l'aquarelle à côté, quoi, pour la couleur. Franchement, quelque chose qu'on a tous dans notre trousse, quoi, en tout cas. enfin oui, dans notre classe quoi. Enfin, on a tous, tout le monde a un stylo et un peu de couleur à ajouter. Et voilà, Paco, il a choisi du papier qu'on peut tous avoir. Il a choisi du stylo qu'on peut tous avoir. Il a choisi une couleur qu'on peut tous avoir parce que ça fait sens aussi dans le travail qu'il a mené avec donc son illustration qui parle de la musique et de son accessibilité, que la grande force du musicien, c'est que son travail est accessible à tous ceux qui peuvent l'entendre ou même le sentir. Et donc, voilà, pour aborder cette accessibilité, pour lui, c'est important que l'accessibilité se fasse aussi dans le médium. Parfois, on utilise aussi notre médium pour surenchérir sur des choses qu'on raconte déjà à travers l'image qu'on transmet. Et donc, ouais, on a... c'est drôle aussi, je pense, cette exposition. On a beaucoup de choses à offrir. Des choses dont on a... Voilà, des tableaux dont on a peut-être plus l'habitude. Voilà, de la peinture sur une toile, de la peinture sur du bois. C'est beaucoup d'images très différentes qui se répondent ou pas, et c'est, je pense que il y en a pour tous les goûts en fait à cette expo. Voilà, t'aimes pas trop la peinture, bah ça t'ennuie. Hein. Enfin, je pense que par exemple les enfants, moi je sais petite j'aimais un peu plus quand les expositions étaient interactives. Par exemple, Louis il a fait une installation et quand t'appuies sur un bouton, et tu fais descendre une roulotte et il se passe quelque chose. Et en fonction de quand est-ce que tu appuies sur le bouton, tu vas pas voir la même chose. Et il a créé un univers voilà, autour de cette installation. Il y a Lou qui nous invite à rentrer dans un tunnel de vêtements pour aller observer quelque chose à la fin. On a Agathe qui a fait une installation avec un filet de pêche et de la céramique. Et la céramique est tellement légère, tellement fine qu'elle fait du bruit. Et donc Agathe, elle vient nous inviter à voir, mais elle nous invite aussi à écouter. Donc il y en a vraiment pour... il y a autant de profils... Il y a tellement de profils d'artistes différents qu'il y a... Il y en aura pour tous les profils des publics.
Pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts, surtout.
Le brouhaha des travaux de préparation pour l'exposition Sous la peau du monde nous a forcés à nous exiler pour les dernières minutes qui nous restent ensemble. Car oui, comme je le disais, à l'heure à laquelle je me suis faufilée dans les coulisses de la préparation de l'exposition, c'est encore en pleine effervescence et en plein travail.
Ah ouais, ouais là, moi, enfin, Pauline, t'as réussi à installer ton moteur pour ta tortue.
Moi, j'ai tout fini à temps, ouais. Mais il y en a certains qui sont encore en cours d'installation. C'est un peu, je pense, pour certains, un peu le stress. Voilà, on a hâte aussi.
C'est le rush de fin, quoi.
Voilà, le rush d'avant-vernissage.
Vernissage qui, je le rappelle, aura lieu le vendredi 23 janvier à 19h à la Lune en parachute. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour les auditeurs?
Déjà qu'ils sont les bienvenus à l'exposition qui voilà. Est gratuite et ouverte à tous.
Venez nombreux pour voir nos œuvres.
On a des ateliers qu'on a organisés. Par exemple, donc, les dates sont déjà fixées. On a une lecture de contes le mercredi 11 février de 15h à 16h. Donc, c'est une lecture plutôt pour les plus petits, donc autour des 5 ans, il me semble. Mais donc c'est une lecture qui sera menée par Noé et Agathe et des contes qui ont été trouvés à la BMI en partenariat avec la BMI voilà. Il me semble qu'il y aura aussi un peu un travail des marionnettes, mais je veux pas trop spoiler.
Ok, d'accord, j'ai compris.
Et dans la lecture, elle sera un peu animée quoi. Voilà.
Donc il y a un type aussi.
Donc le samedi 14 février à partir de 14h30, c'est un atelier qui dure une heure et demie. On a un atelier cyanotype. Le cyanotype, je ne sais pas si tout le monde sait, mais c'est donc c'est un liquide. C'est quelque chose. On va venir peindre sur du papier, par exemple, une solution de cyanotype, qui est une solution photosensible, c'est-à-dire que exposée à la lumière, elle s'imprime. Et donc en fait, ça permet de faire des empreintes, par exemple, de feuilles, de fleurs, de jouer avec la transparence. Voilà, donc c'est un atelier tout public. C'est un atelier qui sera mené par Agathe et moi. On aura, avant l'atelier, on va sortir dehors, récupérer le matériel qu'on va vouloir venir imprimer. Donc là, ça, le cyanotype, évidemment, est fourni par la Lune, hein, mais en tout cas, il y aura une petite balade avant l'atelier pour collecter. Voilà. Ensuite, un atelier Tetra Pak, qui sera fait par Claude et moi, le 21 février, atelier Tetra Pak. Le Tetra Pak, c'est le matériel, c'est les cartons, c'est les briques de lait, les briques de jus.
Et les végétales aussi, enfin tout ce qui est à base, il y a une forme d'aluminium derrière à l'intérieur de l'emballage.
Oui, c'est une sorte de carton un peu protégé à l'intérieur. Et en fait, c'est une initiation, donc nous, l'atelier qu'on propose, c'est une initiation à la gravure faite chez soi. Voilà, donc avec les briques du lait du matin et... Et donc, on vous invite avec... normalement, on est... Enfin, bref. Donc, c'est comment faire de la gravure faite maison, quoi. Donc, initiation, pareil, c'est tout public, à partir de 5 ans. Donc, voilà, les familles sont invitées à venir.
Moi, je vais animer un atelier qui s'appelle l'atelier du tout en carton, où j'ai initié, ça peut être à partir de 5 ans ou 7 ans, les enfants, à modeler à base de pâte de carton que je fabriquerai préalablement. Et c'est pour leur montrer que, avec même du carton, on peut vraiment tout faire. C'est un matériel qui est accessible à tous et qui est très très intéressant à travailler. Donc voilà, on va modeler, on va faire un peu des petites des animaux ou autres, ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudront. Et c'est pareil, c'est un atelier qui dure entre une heure et demie. Et donc cet atelier sera animé par moi et Guyliane, une autre élève de l'ESA.
Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous. À toi Chloé, à toi Pauline et puis à tous les autres étudiants de l'ESAL, une très très bonne exposition et surtout avant toute chose un bon vernissage et même encore avant une bonne finition d'exposition. Dans tous les cas, j'ai hâte que les auditeurs puissent aller se promener dans les locaux de la Lune en parachute et admirer vos différents travaux qui, je l'assure, valent vraiment le détour. Et bien, merci à vous de m'avoir accordé votre temps et à peut-être très bientôt.
Merci beaucoup.
Entre tension du montage, gestes techniques et échanges improvisés, ce fragment nous rappelle que derrière chaque exposition, il y a des corps au travail, des voix, des doutes et beaucoup d'engagement. Les œuvres continuent de se transformer, les regards de circuler et les questions de résonner juste avant que l'exposition ne s'offre pleinement au public. C'était Sous la peau du monde, vu depuis les coulisses, à la Lune en parachute, avec les étudiants de 3e année de l'ESAL d'Épinal. Le vernissage aura lieu le 23 janvier à 19h et l'exposition se tiendra jusqu'au 20 février. Et en attendant, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce fragment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion.
Fragment d'art sur Radio Gémozo.